colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Cette communication aurait pu se situer dans la demi-journée d'hier et prolonge exactement le thème des victimes, parce que la loi française fait des prostituées des victimes et de fait elles le sont. Alors, le sujet que je vais traiter est tout à fait particulier et concerne finalement assez peu de femmes, mais c'est un phénomène intéressant à étudier quand même. Quand on cherche actuellement ce qu'est un BMC sur Internet, les significations sont des plus variées. Il y a vraiment de tout. Et quelquefois, on trouve même le sigle employé sans traduction. J'ai découvert, par exemple, qu'il y avait une équipe cycliste BMC au Tour de France l'année dernière. Je ne sais pas ce que c'est, ce BMC-là, mais enfin, ce n'est pas celui dont je veux vous parler. BMC s'affiche maintenant. On le voit dans les rues de Paris. En réalité, bon, je vais vous parler de ça. Et c'est un terme qui commence à disparaître de la mémoire, hein, parce qu'il n'a plus de réalité. Alors, il faut l'expliquer quand même. Bordel, c'est un mot qui apparaît au milieu du XVIIe siècle et qui fait suite à l'ancien mot Bordeaux, lui-même d'origine germanique, d'un terme bord qui veut dire petite maison, qu'on retrouve dans bordier, dans borderie par exemple. Il est d'usage alors très, très normal. Au XIXe siècle, il devient péjoratif. Il devient très grossier, nous dit Littré, parce qu'on emploie plus couramment le terme de maison de tolérance. Aujourd'hui, il est redevenu banal et employé très largement. Militaire. Alors, militaire, il ne l'est pas par construction, il n'est pas organique, il l'est par destination. C'est ce que l'on voit affiché sur ce panneau, avec une belle contradiction, d'une maison publique réservée à certains. De campagne veut dire mobile, comme dans l'artillerie de campagne, opposée à l'artillerie de siège ou de position, mais aussi comme dans l'hôpital de campagne, qui est opposé à l'hôpital sédentaire. Et là, le terme est sorti du vocabulaire militaire, puisque là, l'image que vous voyez est celle d'un établissement de pompiers. L'existence des BMC est liée à un phénomène qui est celui de la présence des femmes à la suite des armées et que les armées n'ont jamais réussi à faire disparaître. Donc, comme le dit Cocteau, on organise ce qu'on ne peut empêcher. Les femmes à la suite des armées ont toujours existé, y compris dans des armées surprenantes comme les croisades. Et là, on est donc à la 7e croisade, et Saint-Louis, alors que son armée est à Damiette, en Égypte, se plaint de voir son camp envahi par les prostituées. Il dit qu'il y a un Bordeaux à un jet de pierre de sa tente, c'est-à-dire tout près. C'est à cette occasion-là qu'il décide de sévir en s'en prenant aux hommes. C'est la première fois, contrairement à ce qu'on nous dit actuellement, qu'on a essayé de supprimer la prostitution en s'attaquant aux hommes et non pas aux femmes. Il y a un passage de Joinville qui explique ça. Dans l'armée de Jeanne d'Arc aussi, il y a des femmes très nombreuses au point qu'à plusieurs reprises, elles tentent de les chasser. Ces deux personnages ont, vis-à-vis de la prostitution, une attitude de condamnation morale, qui est à l'inverse de ce qu'est la société médiévale. Par exemple, Louis XI, en 1424, prend sous sa protection les prostituées. Tout change avec l'apparition des maladies vénériennes. À la fin du XVe siècle, et sans entrer dans le débat sur l'origine américaine ou non de la syphilis, c'est au retour de Christophe Colomb, après son retour, que l'on voit apparaître la syphilis. Dans l'armée française, elle apparaît en 1495, à la bataille de Fournoux. Fournoux est à 120 km au sud-est de Milan. Les premiers soldats français malades apparaissent là. Et à l'époque, c'est une maladie éruptive qui se manifeste sous la forme de pustules purulentes et qui vous tue son homme en quelques semaines. L'armée est dissoute l'année suivante à Lyon. Les chroniqueurs locaux en parlent abondamment. Et c'est une armée qui comporte une toute petite partie d'armée permanente qui a été créée quelques années plus tôt, mais une majorité de mercenaires qui sont libérés, renvoyés chez eux, qui de ce fait véhicule la maladie un peu plus vite. Et très rapidement, elle se répand dans toute l'Europe et elle atteint, on le voit, le Japon avant même l'arrivée des premiers Européens, ce qui indique bien le mode de transmission. Mode de transmission qui a été décrit par le professeur Widmann dès 1497 et qui désigne nommément les prostituées. Et il parle même de femmes saines qui peuvent transmettre la maladie à des hommes, parce qu'elles ont fréquenté avant cela des hommes infectés. Pendant 4 siècles, on n'a pas su soigner la maladie. Et ce n'est qu'au début du XXe siècle que les progrès sensibles sont réalisés avec la mise en évidence du germe de la syphilis, que le Schoending appelle le tréponème pâle. L'année suivante, un autre médecin allemand met au point un test de dépistage. Et en 1910, là, c'est vraiment une étape importante, Ehrlich met au point le 606. Alors le 606, il s'appelle néo-salvarsan de façon officielle, c'est un arsénobenzol, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, dont je ne suis pas. Et il s'appelle 606 parce que c'est au cours de la 606e expérience de traitement qu'il arrive à un résultat satisfaisant. Et il a continué puisque pendant la guerre, il sort le 978. Donc c'est un travail de très longue haleine. Les progrès définitifs sont réalisés en 1942 dans l'hôpital des Marines de Staten Island à New York, où les médecins mettent en évidence l'efficacité de la pénicilline dans le traitement des maladies vénériennes. Il faut encore 2 ans pour de vérification, de contrôle, de fabrication et de conditionnement pour que la pénicilline apparaisse dans l'armée américaine quelques semaines après le débarquement de Normandie. Bon, face à la maladie, l'attitude des autorités change et devient répressive. Ben, c'est évident. Pardonnez-moi, je voudrais prendre mon texte. Quelques citations, je n'ai pas écrites sur les points. Strozzi est le colonel général de l'infanterie française de l'époque, c'est-à-dire un personnage très important puisqu'il commande 80% au moins de l'armée française. Il prend donc en 1560 une ordonnance pour chasser les prostituées, puisqu'elles suivent son armée, il veut s'en débarrasser. Et il écrit, qu'il veut condamner celui qui se trouvera avec fille de joie à la suite des bandes, c'est-à-dire des régiments, sera cassé, et les filles de joie seront fustigées de verges. Louis XIV renchérit plus tard par l'ordonnance de 1684 prise pour faire condamner les filles de joie, les filles de mauvaise vie qui se trouveraient avec les soldats à 2 lieues aux environs de Versailles à avoir le nez et les oreilles coupées. Alors, le traitement, la punition a été appliquée. On en connaît 5 exemples. Alors, ils ont coupé le bout du nez et le bout des oreilles, mais enfin, c'était un traitement particulièrement brutal. Et il le dit, il est dit dans l'ordonnance qu'on arrive à cette extrémité parce que les femmes qui ont été chassées après avoir été battues, même marquées, etc., revenaient quand même. Et il citait plusieurs exemples où les femmes sont revenues plusieurs fois en dépit de ces traitements. Le traitement des les punitions infligées aux soldats, les soldats sont toujours vénériens, sont punis. Ils sont punis jusqu'en 1842. Ils sont punis parce qu'on estime qu'ils essaient par ce moyen-là de se soustraire à leur service. Et quand ils sont pris avec des femmes, la punition la plus fréquente, c'est le cheval de bois. Alors, c'est pas très... ça paraît simple, mais en réalité, c'est très douloureux. Au bout de quelques heures, quand on les descend, ils ne peuvent plus marcher. Hein, il leur faut plusieurs jours pour se rétablir. D'autant que vous voyez, les hommes ont des boulets aux pieds pour être bien sûr qu'ils portent sur tout leur poids. Mais on n'arrive jamais donc à éliminer ces femmes, si bien que ben, on s'en accommode. Et l'ordonnance de 1768 dit que les femmes ne doivent pas se trouver au milieu de la troupe au moment où la troupe entre dans une place. Cette situation n'arrive au mieux qu'une fois par jour. Ce qui veut dire que le reste du temps, les femmes sont au milieu de la troupe. C'est ce que montre ce tableau de Vernet, qui est de 10 ans antérieur, où l'on voit la troupe qui entre dans le port d'Antibes, à droite, suivie derrière par ce troupeau mélangé avec des chariots, des bagages, des impedimenta divers, quelques soldats d'escorte ou clopinants, et puis des femmes, dont certaines sont maltraitées par les hommes, comme on le voit ici, et au point qu'elle doit crier, puisque l'officier qui est là se retourne pour essayer de faire cesser la scène. Les choses ne s'arrangent pas avec la Révolution, puisque en 1793, les soldats sont autorisés à se marier librement, et évidemment, du jour au lendemain, ils ont tous une femme, sinon deux. Et ce sont tous des mariages de la main gauche, bien sûr, mais les armées sont envahies par les femmes. Un mois plus tard, les représentants aux armées hurlent, crient au charron, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Duquesnoy rapporte à un moment donné que lorsque l'armée de Moreau se replie après l'affaire de Belgique, les cantonnements sont envahis par les femmes, il n'y a plus de place pour mettre les soldats. En plus, bon, bien sûr, elles occupent les chariots, elles prennent la nourriture, elles occupent les routes. Enfin, il faut à ce moment-là faire preuve de beaucoup de discipline pour arriver à éliminer les femmes, et on n'y arrive jamais vraiment. Jusqu'en 1832, on voit au siège d'Anvers encore des protestations des généraux pour essayer de se débarrasser de ces femmes. Et pendant l'Empire, ça existe encore. Bonaparte a essayé avec force de les chasser sans jamais y parvenir. Il a réglementé là aussi en fixant un nombre de vivandières autorisées par unité, mais il y en avait bien d'autres. Et les images de l'époque le montrent aussi, on voit des femmes qui suivent. Sous l'Empire, comme les armées se déplacent assez vite et puis après stationnent dans les pays, on fait plutôt appel à la prostitution locale. Mais à ce moment-là, elle est organisée par les généraux qui édictent des mesures conformes à la législation ou à la réglementation plutôt en place à partir de 1800 en France, c'est-à-dire ce qu'on a appelé par la suite la tolérance, c'est-à-dire selon l'idée que la prostitution est libre, le proxénétisme est interdit, mais pour avoir des prostituées, il faut des proxénètes, donc on laisse certains proxénètes vivre et travailler, et on les autorise, sans l'écrire vraiment, mais à organiser des bordels. C'est le principe de la tolérance, c'est-à-dire ce n'est pas une autorisation, ce n'est pas une loi, c'est simplement la bonne volonté locale du maire qui autorise l'établissement d'un bordel. Ça débute en 1800 à Paris avec la création de la préfecture de police, et dans les villes de France, ça commence surtout après l'Empire. On voit en 1815, par exemple, la ville de Strasbourg de se doter d'un règlement de la prostitution. En 1816, celle d'Orléans. Ces réglementations apparaissent à la suite de l'occupation alliée de 1814-1815, et notamment de la présence de l'armée russe qui est largement infectée et qui redonne une impulsion nouvelle à l'infection en France. Dans l'armée, le mouvement est identique. Il me manque, voilà, quelque chose qui a dû sauter là. C'est le règlement de 1818 qui instaure le contrôle des hommes. Ce sont les premiers hommes en France à être contrôlés sur ce plan-là. Et il est même décidé que toute troupe qui venait prendre place à Paris devait passer par des points de contrôle sanitaires sur les routes d'accès. Alors, ils sont à Versailles, Fontainebleau, Dampmartin, Senlis, Brie, Beaumont, Orléans. Et à ce moment-là, la troupe s'arrête, les médecins passent la visite de tous les hommes et des femmes. Puisque, nous dit Parent du Châtelet, qui est le médecin hygiéniste de la ville de Paris, dans son livre sur la prostitution en 1836, parce qu'on considère que ces femmes sont toutes des prostituées. Les vivandières, blanchisseuses et autres dans les armées sont toutes des prostituées. C'est en réalité la part du feu que l'on fait là. Hein. On tolère une petite part de prostitution dans l'armée, on l'encadre, on les contrôle pour essayer de limiter les ravages de la maladie. Le reste du temps, on fait confiance à la prostitution locale. En 1830, les Français débarquent à Sidi Férouche. Le Bey d'Alger capitule 3 semaines plus tard. Et 6 jours après cette capitulation, un service de police et de salubrité est mis en place. 6 jours plus tard. Tout de suite, parce qu'il y a à Alger une prostitution importante qui est réglementée en partie sous la responsabilité d'un personnage qui est un fonctionnaire ottoman qu'on appelle le mezouar, qui donne l'autorisation aux prostituées de travailler, qui veille à ce qu'elles ne reçoivent, elles sont toutes musulmanes, elles veillent à ce qu'elles ne reçoivent que des musulmans, les rapports entre gens de religions différentes sont interdits, les juifs n'ont pas le droit de se prostituer, il n'y a pas d'européennes, il y a à l'époque très peu d'européennes à Alger, donc il n'y a pas de prostituées européennes. L'année suivante, le mezouar est débarqué, remplacé par un commissaire de police français, et en 1835, un règlement du type de ceux qui existent en France existe pour la ville d'Alger. L'apparition des BMC, voilà, ben alors, c'est, il y a eu un petit décalage, c'est le, voilà, alors, hein, et voilà les propos de parents du Châtelet. L'apparition des BMC, pour moi, se situe à ce moment-là. 1836, c'est le moment où on commence à se battre contre Abdelkader, à l'ouest du pays. Et comme le pays que vous montre cette aquarelle de Gobo n'a aucune infrastructure qui permette le stationnement des troupes, Bugeaud réinvente le camp à la romaine, un camp de base, où il y a tous les moyens nécessaires, les approvisionnements pour les troupes, à partir desquels des colonnes mobiles sont envoyées combattre. Et elles reviennent au bout de quelques temps se réapprovisionner, se soigner, et se préparer à repartir. Et dans ces conditions-là, comme on le voit sur la gauche, là, au bord de la Tafna, cette rivière, un camp avec deux parties, une au fond où sont logées les troupes, et quelques tentes au premier plan, qui pourraient bien être un BMC. La raison de cette constitution, c'est que un homme qui sortirait pour aller trouver des femmes serait en grand danger. Ça a toujours été le cas, à toutes les époques. Mais en même temps, lui-même peut provoquer des dégâts de vol, de viol, de meurtre, qui sont contre-productifs, qui iraient à l'encontre de la volonté de pacification exprimée. D'où la création des BMC. Dans ces BMC, on trouve surtout des femmes du pays. Le BMC, c'est aussi le croisement d'une pratique ancienne et de la réglementation qui vient d'être mise en place en France. La pratique ancienne, c'est par exemple en 1465, lors des guerres entre Louis XI et Charles le Téméraire, on voit traverser Paris par une compagnie d'archers à cheval qui dit la chronique, bien équipé, ne manquant de rien, et suivi de 8 filles de joie, chevauchant à la suite de la compagnie avec leur confesseur. Et cette idée du confesseur, dans la réglementation au XIXe siècle, on écartait les bordels des églises. Au contraire, autrefois, on les mettait tout à côté des églises pour que les hommes, en sortant, puissent aller se confesser. Et la pratique récente, c'est donc le contrôle administratif, c'est-à-dire policier, et médical. C'est d'autant plus facile à mettre en place que, jusqu'en 1870, le gouverneur général de l'Algérie est le général commandant en chef des troupes, qu'il relève du ministre de la guerre, et que, à partir de 1848, où on crée des départements avec des préfets à leur tête, ces préfets sont subordonnés au gouverneur général commandant en chef des troupes. Ce n'est qu'à partir de 1870 qu'on sépare les deux fonctions, avec un homme politique ou un haut fonctionnaire à la tête du pays. Alors, les femmes à Alger sont, curieusement, pour une colonie, pour un quart, des Européennes. Je dis curieusement parce que dans la plupart du temps, il n'y a pas ou très très peu de prostituées européennes ou françaises dans les colonies. Parce que c'est la négation de la colonisation, de la hiérarchie sociale, bien sûr, qu'on impose. Donc ici, il y a, ça ne concerne que les prostituées inscrites, celles qui sont soumises. Ça ne parle pas, on ne parle pas des clandestines. Mais donc on voit là, les trois quarts sont des indigènes. La France a bien sûr supprimé l'interdiction de la prostitution par aux Juifs. Il n'y a plus aucune différence désormais. Cette image aussi veut dire aussi que la maladie est très présente. La maladie est très présente et on le constate dès le débarquement à Alger. Ce capitaine est un officier de l'état-major du corps de débarquement et il vous dit bien que les femmes qui se livrent au libertinage sont très attaquées. Et 20 ans plus tard, ce médecin constate encore que toutes les femmes inscrites à Alger passent au moins une fois dans un dispensaire pour se soigner, au moins une fois par an. La prostitution, la maladie est très présente en Afrique du Nord. On dit souvent qu'elle est endémique. Vous voyez ces chiffres qui, même s'ils diminuent avec le temps, restent très importants. Ça se traduit aussi dans l'armée par le fait que les unités de l'armée d'Afrique, celles qui sont en blanc là, sont les plus touchées. Alors, cette estimation est faite en tenant compte de 6 critères qui sont indiqués en bas à gauche. Plus un soldat est jeune, plus il risque d'être contaminé. Plus le service militaire est long ou l'engagement est long, plus il risque d'être contaminé. Le lieu de stationnement joue un rôle considérable. Plus la ville est grande, plus les risques sont grands. C'est pour ça que Paris ou Marseille sont très dangereux. L'expatriation est un facteur aggravant. Et puis, ce qu'il faut expliquer, l'arme d'appartenance et l'emploi à l'intérieur de l'unité. L'arme d'appartenance et l'emploi, ça explique que les plus contaminés sont les pompiers de Paris. Et de loin. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à Paris, ils sont engagés de longue durée et ils sont employés en toutes petites équipes. C'est toujours vrai actuellement. Ils sont par deux, parfois, hors de tout contrôle, loin de leur chef. Et ils ont toute possibilité, dans la journée, de se contaminer à un moment ou à un autre. Ce qui explique aussi que les gardes républicains, qui à l'époque ne sont pas cette force de parade qu'on a actuellement, mais une force de police classique, sont contaminés. Et ce qui explique aussi que les infirmiers ou les commis d'administration, c'est-à-dire les employés, les soldats de l'intendance, parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils habitent dans de toutes petites structures loin de leur chef, eux aussi peuvent se contaminer. Et à l'inverse, que les unités de combat sont moins contaminées. Je ne parle pas des compagnies de discipline ou des prisonniers qui sont enfermés. Ceux-là, ils n'ont aucune chance de se contaminer. S'ils le sont, c'est avant. Donc on voit que les tirailleurs et les spahis, troupes indigènes, sont les plus contaminées. Que les chasseurs d'Afrique et les zouaves, troupes européennes, le sont aussi à un degré moindre parce qu'une partie de leurs soldats viennent de métropole. La prostitution en Algérie prend des formes diverses, celle du quartier réservé, comme ici à Sidi Bel Abbès, c'est-à-dire un secteur de la ville où sont regroupées les prostituées. Les maisons closes sont très abondantes et on voit que la majorité donc, des prostituées sont bien des indigènes, à toutes les époques jusqu'à la fin, et qu'elles sont fréquentées par tout le monde, les indigènes comme les Européens. C'est une spécificité, le BMC, de l'armée d'Afrique. L'armée d'Afrique, c'est-à-dire l'armée stationnée ou recrutée en Afrique du Nord. Et cette photo d'un camp lors de la campagne du Rif vers 1925 montre assez ce que c'est, c'est-à-dire ces quelques tentes au premier plan, avec au fond le cantonnement ou le campement et les écuries, le matériel. Ça ressemble étrangement à ce qu'on a vu un siècle plus tôt. C'est toujours le même dispositif. Quand on s'approche, on voit que les femmes sont effectivement des indigènes, mais que les hommes sont de toute provenance. On voit des indigènes, ceux qui portent la chécha, mais on voit aussi des hommes en képi, comme ici, ou là. Se reproduit cette image, avec cependant, donc là aussi on voit bien que ce sont des indigènes, ici on voit une noire. En réalité, c'est faux ça. Les noirs, les Sénégalais, combattent avec leurs femmes. Leurs femmes les suivent au combat. Hein, pas en Europe, mais en Afrique. Donc ils peuvent aller au BMC, bien sûr. Et s'il y a une noire, c'est certainement une noire arabisée, hein, d'un pays du Nord. Les BMC sont ouverts à tous les grades. C'est ce que vous montre l'image là, avec ce général qui y va d'un pas décidé. Mais chacun y va avec une répartition en plage horaire. On ne se mélange pas. On emploie aussi simplement le type de bordel pour donner un titre à la note de service et non pas BMC. Là, on est dans la France libre. Hein. C'est 1900, je ne sais pas quoi, 41 ou 2. C'est l'armée d'Orient, Montclar, colonel, ça doit être en 41. Alors, en France et en Europe, les soldats ont recours à la prostitution, mais à la prostitution de ville, c'est-à-dire éventuellement, et c'est assez peu fréquent parce qu'elles sont plus chères que les autres, la prostitution de rue, ils vont plutôt dans les bordels. Et ils y vont tellement que certains deviennent spécialisés. L'armée n'intervient pas, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que la clientèle militaire chasse les autres clients et fait baisser le prix de la passe. Parce que les militaires sont, chacun sait, mal payés, donc ils ont peu de moyens. Et il y a toujours, on voit très tardivement, hein, encore dans les années 30, on voit qu'il y a des tarifs différents selon que le client est civil ou militaire. Mais ce sont des fidèles, c'est vrai, c'est vrai. Alors, cette image-là de Constantin Guisse fait immanquablement penser à la fille Elisa d'Edmond de Goncourt, qui se déroule dans le 106 avenue de Suffren, c'est-à-dire en bordure de l'école militaire. Il y a un triangle d'or, hein, école militaire, la tour Maubourg, c'est-à-dire les Invalides, et Duplex. En province, c'est la même chose. Ici, c'est un des quatre panneaux qui décoraient le bordel de Bar-le-Duc, qui renvoie à Courteline, bien sûr. Mais cette image réelle d'avant la guerre de 14 montre bien cette présence massive de soldats. Et s'il y a un homme, là, c'est le patron. Pendant la guerre, tout continue comme avant, mais avec une plus grande ampleur. Et là encore, les soldats font plutôt appel au bordel. Il y a de très nombreux témoignages de colonnes de centaines d'hommes se pressant à la porte de ces établissements. En Grèce, à Salonique, qui est la base arrière de l'armée d'Orient, où on trouve des hommes de toutes les nationalités, toutes les armées sont présentes, le quartier du Vardar, qui est près du port, était déjà un quartier de prostitution, mais a connu une expansion considérable du fait de la guerre. Et puis, dès que la guerre de mouvement reprend, les unités se dotent de BMC. C'est le cas du régiment de marche de Spahis marocain, qui est en marche vers Uskup, c'est-à-dire l'actuelle Skopje, la capitale de la Macédoine, et il est suivi, comme au XVe siècle, de quelques femmes à cheval, qui sont des Turcs, pour l'occasion. Pendant la guerre, quand Clémenceau arrive au pouvoir, on dit, c'est bien qu'il fait la guerre, il fait la guerre partout, et il l'a fait également en matière de prostitution. Et il charge le chef de son cabinet militaire, le général Mordac, qui est un réglementariste convaincu et qui, à plusieurs reprises, a demandé à ce que l'on crée des BMC dans les unités qu'il commande, le charge de cette organisation. Le 13 mars 1918, il écrit au commandant de région de faire un état des besoins. Et sans attendre la réponse, 10 jours plus tard, il publie un règlement. Ce qu'il appelle des maisons de tolérance, mais qui sont des BMC, à vrai dire. C'est le premier règlement qui existe et la première apparition officielle d'un texte. Jusque-là, si ça a existé, ça a été toujours, sauf à part, on a vu quelques notes de service, mais il n'y a jamais, il n'y a pas notamment de note qui un jour dit on va créer un BMC. Ça n'existe pas, ça. Hein, y a pas, le terme lui-même n'est à peine employé. Et voilà le besoin établi. Alors, il y a ici 25 postes demandés, enfin 25 points demandés, et avec un total estimé de 450 femmes. Tous ces points sont dans des villes où il n'y a pas de réglementation de la prostitution, parce qu'avant la guerre, il n'y avait pas de besoin. Ce sont soit des toutes petites villes, soit des villes où il n'y a pas de prostituées parce qu'il n'y avait pas de troupes, donc il n'y a rien. Et les maires tardent ou ne savent pas, ne veulent pas, ce qui fait qu'on conseille au préfet de se substituer aux maires si jamais il y avait quelques réticences. Dans la réalité, ça ne s'est pas fait entièrement, parce qu'il y a eu des réticences locales, y compris du commandement militaire local, des difficultés matérielles, etc. En cas de difficultés matérielles, notamment l'absence de bâtiments pour loger l'établissement, le génie met en place des baraques. Et il y a des plans établis avec deux types d'établissements pour 10 ou 26 pensionnaires. Et à chaque fois, on trouve une chambre pour les prostituées, une chambre pour les patrons, pour la femme de chambre, pour la sous-maîtresse, un ou deux salons selon le type, une salle pour la visite sanitaire, une salle à manger, un vestiaire, des sanitaires, des douches, et quand il y a deux bâtiments, un jardin entre les deux. Le même règlement prévoit le matériel nécessaire, c'est-à-dire on voit des brocs à eau, des cuvettes, etc., les médicaments ou les produits nécessaires, et des consignes prophylactiques, qui sont rédigées en français et en anglais, pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, et elles sont affichées dans les chambres des filles. En occupation en Allemagne, le système se prolonge, d'autant qu'on estime, au début de 1919, que la population des villes allemandes est contaminée à hauteur de 25%, et que dans les campagnes, c'est un peu moins, mais un chiffre important quand même. Donc l'armée française, dans sa zone d'occupation, réquisitionne 57 bordels allemands pour ses besoins, en fait ouvrir d'autres quand il n'y en a pas ou pas assez, et tente d'établir quelques BMC dans les camps. Alors pour cela, elle fait venir, toujours à destination des troupes indigènes d'Afrique du Nord. Elle fait venir quelques femmes d'Afrique du Nord, mais en tout petit nombre, parce que les proxénètes sont réticents à envoyer leurs femmes au loin, elles seront loin des yeux et ne pourront plus les surveiller. On met en place un règlement, bien sûr, mais cette occupation et par la présence de troupes indigènes débouche sur l'affaire de la honte noire. Alors, en vue de la signature de l'armistice, les Allemands avaient demandé qu'aucune troupe indigène ne soit envoyée en occupation, ce que Foch avait refusé. Et donc on trouve parmi les 85 000 hommes en occupation en Allemagne, 7500 Sénégalais et 16000 Nord-Africains. Ça débouche sur cette rejet par une partie des autorités allemandes de cette occupation, et une campagne de propagande se développe qui s'appuie sur quelques réalités. Il y a eu quelques viols, quelques meurtres par des indigènes de femmes allemandes. Les hommes ont été fusillés très rapidement, mais ça ne suffit pas à calmer là, d'autant qu'elle est alimentée notamment par un journaliste anglais qui, curieusement, s'était fait connaître auparavant en soutenant la révolte des Congolais contre le roi des Belges, et là se met à virer nationaliste et rencontre donc ce courant de pensée en Allemagne. Hitler en parle dans Mein Kampf, et cette affiche dit bien ce que la culpabilité de la France d'avoir amené ses troupes indigènes, c'est-à-dire un sang vicié au sein de l'Allemagne, de la la pureté de la race allemande, et tout cela, bien sûr, organisé par les Juifs, comme on le voit sur le dessin. La France est rapidement mise en accusation et, y compris auprès de ses alliés, se trouve en difficulté, si bien qu'entre 1921 et 1928, elle retire petit à petit d'abord les Sénégalais, puis les Nord-Africains, puis les Indochinois, et à la fin, elle chasse même les Antillais qui sont dans les troupes, alors qu'ils sont citoyens français. Dans le même temps, en France, on fait venir des unités indigènes pour stationner. Cela parce que la population a considérablement diminué du fait de la guerre et que l'on veut avoir une présence militaire importante face à l'Allemagne, dont on craint la reprise des guerres. Ce qui fait qu'en 1939, on a une très importante troupe indigène. 20 000, c'est des troupes coloniales. Mais quand on regarde les régiments de l'armée d'Afrique, un régiment d'infanterie, c'est 3000 hommes. Un régiment de cavalerie, 1500. Donc vous voyez que ça fait des chiffres considérables. Cependant, rien n'est fait de particulier pour eux, donc ils se débrouillent avec la prostitution locale, en dépit de quelques récriminations, notamment des autorités des pays, des colonies, qui redoutent toujours que les indigènes fréquentent des femmes blanches. Il n'y a pas de bordel créé pour eux, sauf un exemple. À Ausbergen, c'est-à-dire près de Strasbourg, on a créé un BMC ou un bordel. C'est pas l'armée, c'est la ville qui l'a fait pour les troupes indigènes qui sont employées à la construction de la ligne Maginot. Dans le même temps, on participe à deux guerres coloniales, l'une au Levant et l'autre au Maroc. Et là, c'est le grand développement de la prostitution contrôlée. Et on voit que le terme BMC devient public et compris par les populations françaises. Dans ce journal, qui est un journal du Sud-Ouest, tout le monde a compris ce qu'était un BMC. On n'a pas besoin d'explication. Alors vous remarquez qu'il est près de l'hôpital. C'est en général là qu'on les met, parce que c'est un médecin de l'hôpital qui est chargé de la surveillance. Et que le nombre des femmes présentes ne justifie pas un emploi à plein temps. Donc c'est soit un spécialiste, soit un volontaire désigné qui s'en occupe. C'est aussi l'époque où, au Maroc, on crée des quartiers réservés, notamment parce qu'après la guerre du Rif, d'énormes garnisons sont établies pour maintenir le pays dans la paix, et on voit à Casablanca, par exemple, construire Bousbir. En deux temps. D'abord, il est construit dans la vieille ville, et puis la ville grandissant, on le reconstruit un peu plus loin, c'est ce qu'on voit là, en 1935, et il y a même une ligne de tramway qui conduit les clients. C'est 24 000 mètres carrés. En 1950, il y a encore 670 femmes qui vivent dans 175 maisons. Elles sont toutes musulmanes, à part quelques juives, une petite dizaine, et deux ou trois françaises qui sont dans un coin particulier. Ce quartier réservé est très fréquenté par la troupe, par toutes les troupes, quelles qu'elles soient, au point qu'il faut mettre un poste de police pour contrôler à l'entrée, des patrouilles à l'intérieur, et que la garnison établit un tour pour que toutes les troupes ne se retrouvent pas là et éviter les bagarres entre les unités. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, rien ne se passe en 1939-40, l'indécision frappe là aussi, au point qu'on voit par exemple deux bureaux de l'état-major général être d'avis contraire, ce qui amène le commandement à ne pas prendre de décision. Il ne tranche pas entre les uns et les autres. En revanche, dans l'armée de la libération, qui est essentiellement constituée avec des troupes venues d'Afrique et un peu d'Afrique noire, la prostitution est très présente. Ça commence en septembre 1943 avec l'envoi en Corse de 18 femmes, 18 marocaines, pour la 4e division marocaine de montagne. Et ça se poursuit à Naples dès le mois de janvier, le 2 janvier 1944. La première troupe française a débarqué en fin novembre 1943 à Naples. Et Naples reste la base arrière du corps expéditionnaire. Et là, c'est là qu'arrive tout le matériel, les hommes et les femmes. Et on note que le 2 janvier arrivent 32 femmes, 32 marocaines encore une fois. Ensuite, le juin, en permanence, réclame lui-même, une lettre signée de sa main, réclame l'envoi de femmes. Et l'Algérie et le commandement militaire, l'état-major général à guerre à Alger, envoie autant qu'il le peut des femmes, c'est ce que l'on voit là, mais il dit bien qu'il arrive très rapidement aux limites de ce qu'il peut faire. Hein. Il y a une réticence à trouver. Un cas particulier dans cette affaire, c'est celle des, ce que montre l'image là, qui, ce sont les tabors marocains. Les tabors marocains, ce sont des unités supplétives, qui ne sont pas tout à fait de l'armée française tout en l'étant, et qui sont recrutés parmi les tribus berbères de l'Atlas. Ce sont des hommes qui souvent ne sont, parlent pas français bien sûr, ni même arabes, ils sont berbérophones, hein, ils parlent leur dialecte local. Et on leur donne des femmes de leur tribu qui les suivent, en Italie, puis en France, puis en Allemagne. Et on les retrouvera encore en Indochine. Quand Delattre prend le commandement de l'armée B, c'est-à-dire le corps expéditionnaire d'Italie dont on change le nom, il demande, le 11 juillet 1944, l'envoi de 200 femmes. 100 marocaines, 60 algériennes, 40 tunisiennes. Et toutes ces femmes-là se retrouvent en Allemagne, bien sûr. La fin des BMC, c'est une mort lente qui s'établit, qui dure une 50 ans. Une agonie très lente. Ça commence en 1944, quand on crée des compagnies de garde de prisonniers allemands avec des unités constituées en Afrique du Nord. Et on leur met on met à leur disposition des BMC, avec des femmes calculées selon un ratio d'une femme pour 100 hommes. Donc voilà, 32 bordels demandés et environ, je retrouve mon chiffre, 300 femmes. On n'y arrive pas, bien sûr, comme d'habitude, mais ça ne crée pas de difficultés véritables dans la mesure où les prisonniers sont très rapidement mis à la disposition de l'agriculture ou de l'industrie pour travailler et que à ce moment-là, ils sont logés, nourris dans les entreprises, que de là, ils peuvent sortir comme ils veulent et donc la question ne se pose plus. Les quelques femmes qui ont été acheminées sont alors envoyées en Allemagne. Tout aurait dû s'arrêter avec la loi de 1946, mais dès l'année suivante, sous la pression, le ministre de la guerre fait une dérogation. Et là, il crée une instruction ministérielle, c'est la première et la seule qui existe sur le sujet, et on est défini pour la première fois, c'est-à-dire à la veille de la disparition, comme c'est souvent le cas, ce qu'est un BMC. Il est demandé dans la lettre d'envoi que tout soit fait dans la plus grande discrétion. La grande discrétion, elle tient 3 mois avant qu'un journaliste, dans une série d'articles sur la prostitution en France, révèle qu'il y a un BMC à bord à Fréjus. Il dit même qu'il y a la ville a obtenu de conserver ses bordels en raison de la présence des troupes. Un peu 2 ans plus tard, le François récidive. Et on apprend là qu'il y a des bordels militaires à Lyon, à Vincennes, à Saint-Étienne ou à Marseille. En Asie, les BMC ont été transportés, on voit dès 1920 en Chine, avec des Chinoises. Et au moment de la guerre d'Indochine, on atteint un point culminant où le BMC devient obligatoire. C'est la seule et unique fois. Le général Valuy impose ce BMC. Et on se trouve à ce moment-là avec des Vietnamiennes, y compris dans des unités qui jusque-là n'en avaient pas, comme la marine à gauche, là. Et on voit au milieu de ces femmes, celle qui est en noir, c'est la sous-maîtresse. On crée aussi, on transporte l'idée du quartier réservé avec, sur le modèle de Bousbir, avec le parc à buffles à Saïgon. Et là aussi, il est surtout fréquenté, et presque essentiellement fréquenté, par des militaires. En Algérie, la loi Martrichard ne s'appliquant pas, elle a été appliquée uniquement sur le territoire métropolitain. Les bordels existent, comme on le voit à droite. Et l'arrivée de troupes provoque la création de bordels civils. Et avec cette situation assez extraordinaire, à Kenchela, on crée à la fois une unité de l'intendance Et puis, comme on n'a pas de place pour la mettre, on l'installe dans un bâtiment où il y a un bordel. Donc on a au premier étage, au rez-de-chaussée, les militaires, et au-dessus, le bordel, ce que symbolise l'insigne de l'unité. Comme les unités d'Algérie, pour la plupart, sont sédentaires, sont des unités de secteur, et que même les unités d'intervention, comme ce régiment de parachutistes, ne s'éloignent jamais très longtemps de leur garnison, les bordels deviennent sédentaires. Voilà, à Tébessa, en ville, et non pas dans le quartier, le bordel du 2e REP, et à l'intérieur, on voit des femmes algériennes. Et sur la droite, vous avez le médecin aspirant, appelé du contingent, qui a été chargé du suivi médical et qui s'est trouvé, de fait, le directeur du BMC. Bon, c'est lui qui m'a envoyé cette photo. Il est devenu un éminent professeur de médecine à Lyon depuis. Pardon ? Pardon ? Oui, oui, c'est une, je sais pas, une fête quelconque. Ils sont abus, sont des légionnaires. Hein. C'est les rois mages, oui, ça doit être ça. Ça doit être pas. Oui, 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 on doit être ça. On voit bien qu'on est dans un domaine militaire parce que les planches en arrière portent des inscriptions qui sont, ce sont des caisses de munitions. Le médecin, il est à droite, là. Tout à debout à droite, avec une bouteille de bière à la main. Bon, c'est un médecin de Légion. Hein. La fin, c'est trois dates. La première, c'est la fin de la guerre d'Algérie, qui provoque la dissolution d'un grand nombre d'unités, dont toutes les unités d'Afrique du Nord, à l'exception de quelques-unes, notamment des régiments compagnons de la Libération. Mais quand ils reviennent en France, ils trouvent aussi des unités, et là, très curieusement, ce sont des unités marocaines, constituées de Marocains. Et on est là, en 62, 8 ans après, 6 ans, pardon, après l'indépendance du Maroc. Des accords ont été passés entre la France et le Maroc pour garder des unités marocaines, pour que les engagés marocains restent dans l'armée le temps de faire un service complet, de façon à bénéficier d'une pension de retraite. Ils ont leur BMC, celui de Senlis dont parlait François disparaît en 62, et celui de Dijon ne disparaît qu'en 1965. Le Maroc veut bien envoyer ses hommes, mais il est réticent de plus en plus à envoyer ses femmes. Ce qui fait qu'à la fin, elles sont de moins en moins nombreuses. En même temps, on envisage d'y mettre des Algériennes, mais on craint que ce soit des agents du FLN, si bien que finalement, ça se termine en eau de boudin. En revanche, des unités arrivent et sont conservées un temps, comme le 7e tirailleur algérien qui arrive à Épinal, avec Saharka et son BMC. Mais comme c'est un régiment d'appelés, il y a des appelés algériens qui sont peu à peu remplacés par des appelés français, le BMC disparaît. Et puis, il y a le cas de la Légion étrangère. Alors, la Légion étrangère, c'est un premier régiment qui arrive en France, c'est le premier étranger qui était à Sidi Bel Abbès. C'est un régiment administratif, hein, de gestion de la Légion étrangère. Il arrive à Aubagne. Il n'y a pas de BMC. Il n'en avait pas en Algérie, il n'en a pas là, parce qu'on a des légionnaires âgés ou plus âgés, et c'est près de Marseille. Ensuite, les deux suivants, le premier REC et le deuxième REP, restent en Algérie jusqu'en 1967. Ils sont sur la base de Mercel-Kébir, base militaire d'Oran, qui est laissée à la disposition de l'armée française, jusqu'à ce qu'en 1967, Boumediene prenne un coup de sang et chasse tout le monde. Donc, ils arrivent en métropole et ils amènent leur BMC. Donc, des Algériennes, qui, avec le temps, sont remplacées par des Françaises. Alors, plus extraordinaire encore, c'est le bataillon de génie Légion, qui est une création récente pour les besoins de la création du camp de Canjuers, dans le sud-est. On lui donne un BMC. On crée de toutes pièces un BMC avec des Françaises, mais on s'aperçoit après coup que c'est une unité de Légion, mais il y a aussi des appelés, les soldats du génie. Alors, on l'élimine assez vite. Le deuxième étranger qui arrive en Corse était au Sahara jusqu'en 68. Il est dissous. Il est recréé 4 ans plus tard en France, en Corse. Et on lui crée deux BMC avec des Françaises. Et la transition, la fin, c'est 77, où le quatrième étranger qui est recréé en France n'en a pas. Il n'en a pas parce qu'au même moment, le ministre de la guerre, Yvon Bourges, a demandé à l'inspecteur général de l'armée de terre de faire une enquête sur les établissements spéciaux de la Légion étrangère. Et le rapport qu'il rédige un mois plus tard est assez surprenant. Il dit qu'il faut d'abord admettre la nécessité des BMC et qu'il faut prendre son parti de leur vulnérabilité. Et il en conclut aussi, et il dit on peut le faire parce que le commandement n'est ni juge ni partie prenante, qui est une erreur considérable. Mais il est poussé dans ce sens par les autorités civiles. Il dit avoir rencontré les maires, les commissaires de police, les préfets des départements, et tous lui ont dit « surtout ne changez rien ». Et la solution qu'il trouve, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté n'est jamais une solution, et surtout pas une solution militaire. Il oublie simplement que l'armée est proxénète. Et les chefs des unités sont des proxénètes au regard de la loi. Et c'est ce qui arrive. En 1977, une des pensionnaires du BMC de Calvi porte plainte. Enquête. Et un peu de bruit. Alors il y a deux réactions dans la presse. La première, c'est que on rigole beaucoup parce que le BMC, on n'emploie jamais le terme de BMC. Les légionnaires parlent de pouf, hein, du mot allemand. Mais on a un nom officiel pour en parler, parce que de temps en temps, il faut bien le désigner. Donc à Calvi, ça s'appelle le centre culturel. Donc vous imaginez bien que la presse s'est gaussée des légionnaires allant recevoir les prostituées distribuant la culture aux légionnaires. Bon, mais l'autre réaction est plus grave, c'est qu'on ressort de vieilles histoires qui datent de la guerre d'Algérie. Et Rulin, le colonel en question, qui commande le régiment, était en Algérie, participé à la bataille d'Alger, dans un régiment qui a arrêté un militant communiste algérien qui a disparu. Donc on fait des amalgames et on l'accuse d'être à l'origine de l'affaire. Ça devient très chaud, et puis il est sauvé par Colvézi. En mai 78, se déclenche l'affaire de Colvézi, son régiment est désigné, il part là-bas, il saute, en 5 jours il règle l'affaire, libère des milliers d'otages. C'est un héros national, il rentre, quand il arrive à Marseille, il est accueilli par le président de la République en personne, il est décoré par lui. Difficile, dans le même temps, de le poursuivre pour proxénétisme. Donc il disparaît de la procédure, et finalement, seule la sous-maîtresse est arrêtée, jugée et condamnée à 5 ans de prison. Dans la foulée, donc, on supprime tous les BMC de métropole. Ça continue outre-mer. D'abord à Djibouti, on en envoie. Djibouti, qui est en 80, est un pays indépendant. Mais il y a une unité de Légion, et là, 2 BMC. Et puis, le dernier, c'est Kourou, en Guyane, où, quand le régiment a été transporté de Madagascar jusqu'à Kourou, à Madagascar, il n'avait pas de BMC. Il n'avait pas de BMC parce que les Malgaches étaient très accueillantes, et donc il n'y en a jamais eu à Madagascar. Ça n'était pas nécessaire. Quand il est arrivé à Kourou, on en a créé un, avec des Brésiliennes ou des filles de Guyana. On évite de mettre des Françaises quand même, autant qu'on peut. Et puis, en 1975, le nouveau chef de corps qui fait sa tournée de visite aux autorités locales, quand il arrive dans le bureau du procureur de la République, il apprend qu'il est sous le coup d'une inculpation pour proxénétisme hôtelier. Donc il ferme la boutique. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes ont changé, mais ça veut dire que ce système-là ne sert plus à rien. Si jusqu'en 1946 en métropole, puis jusqu'en 62 en Algérie, le bordel militaire n'est que un bordel civil peint en kaki, c'est la même chose, c'est la même réglementation, au-delà, ça devient incompréhensible, notamment en France. Comment recréer et pourquoi recréer ? C'est une méconnaissance complète de la situation, à la fois médicale, parce que désormais on peut soigner les maladies vénériennes, sociale, ça n'a plus de nécessité, et même militaire, puisque à partir de 1975, les règlements deviennent beaucoup plus libéraux, les hommes peuvent sortir en civil, peuvent sortir plus facilement en dehors des heures de service, et donc peuvent se fondre dans la population, il n'y a plus de besoin. Enfin, c'est le cas de Kourou, le système de contrôle médical n'est plus adapté au risque. Le sida échappe complètement à ce contrôle. Le temps d'incubation de la maladie, les tests nécessaires ne sont pas ceux qui sont pratiqués. Donc il y a eu une erreur complète. Alors, Ça ne veut pas dire que, à partir de ce moment-là, les hommes sont devenus des militaires, les militaires sont devenus des moines, que les régiments sont devenus des couvents, mais on a trouvé d'autres solutions. Alors, les autres solutions, on en connaît deux types, mais qui reviennent aux mêmes. Au Liban, on voit, par exemple, les unités prendre contact périodiquement avec des bordels locaux, réserver une plage horaire où on envoie les hommes, mais on les envoie, comme dans un pays dangereux, en unité constituée, armée, et par petits groupes, ils pénètrent dans le bordel, tandis que les autres assurent la protection. Et en ex-Yougoslavie, c'est un peu le même système qui a été fait par le chef de corps du premier gros élément qu'on a envoyé, qui était 1500 hommes et 50 femmes. Il a pris contact avec un proxénète local, a réservé le bordel pour ses hommes, a payé un médecin local pour soigner les femmes et a soumis tous ses hommes à une visite de contrôle chaque fois qu'ils sortaient en ville, à leur retour. Comme ça, il a évité la maladie.